à tout prix la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle Sébastien Procureur, je travaille au CEA IRFU.
Bonjour, je m'appelle David Attier, l'IRFU pour l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers.
Et nous allons vous parler de nos travaux qui ont fait l'objet du prix de l'Académie des sciences 2018, le prix Yvan Péchès.
Alors oui, en effet, cette aventure a commencé pour nous, qui a fini sur le projet Scan Pyramide. Ça a commencé en 2014, lorsqu'on a commencé à se rencontrer sur une expérience qui s'appelle Classe 12. C'est une expérience de physique hadronique sur lesquelles je travaillais avec Sébastien et sur lequel j'ai développé un banc cosmique pour tester les détecteurs dans le laboratoire. Donc en fait, on utilise les muons du rayonnement cosmique pour comme particules pour pouvoir caractériser les détecteurs qu'on développe dans notre laboratoire. Donc Sébastien, je ne sais pas si tu te souviens de cette idée d'utiliser nos détecteurs et de les mettre à l'extérieur pour pouvoir faire ce qu'on appelle de la tomographie muonique.
Oui, bah effectivement, tu avais développé un banc cosmique. Moi, j'avais mis au point un système de multiplexage, enfin un système en fait qui permettait de réduire la quantité d'électronique qu'on utilisait sur les détecteurs. C'est une technique qu'on avait brevetée à l'époque. Et on a eu l'idée en 2014 de construire un instrument, donc un télescope à muons, pour le déployer pour la première fois en extérieur. Donc c'est des détecteurs de particules qui n'ont pas forcément l'habitude de fonctionner en extérieur. Et l'objectif, c'était d'en installer un donc à Saclay, au pied du château d'eau du centre de Saclay, qui est un château d'eau qui a été construit par Auguste Perret à la création du centre, et pour vérifier les performances du télescope en termes de résolution et d'imagerie. Alors en fait, la muographie ou tomographie muonique, c'est une technique qui utilise les muons, qui sont donc des particules un peu comme des électrons, mais plus lourds et instables. Et ces muons en fait sont produits dans la haute atmosphère par le rayonnement cosmique. Et ces particules ont d'assez bonnes propriétés d'interaction avec la matière, et elles permettent notamment d'imager l'intérieur des objets, des structures, puisqu'elles sont assez pénétrantes. Et leur interaction avec la matière permet de déterminer la structure interne des objets en termes de densité. Donc c'était l'objectif qu'on avait sur le château d'eau. Et donc David peut parler de comment ça s'est passé à l'époque.
Alors je me souviens, c'était fin 2014, on s'était retrouvé avec une petite équipe, là, un électronicien, un mécanicien, au pied du château d'eau. Et puis on le regardait... en se disant, dans quelques mois, on y installera un télescope à ses pieds. Et effectivement, il nous a fallu à peu près 9 mois la première fois pour construire ce télescope, y mettre. Alors à l'époque, effectivement, on avait sorti les premiers prototypes de détecteurs multiplexés à la fois à deux dimensions, c'est-à-dire que chaque plan, donc chaque détecteur correspond à un plan qui a une surface active de 50 par 50 cm. Et est capable donc de donner la position en X, en Y, lorsque le muon a traversé ce plan, avec une résolution meilleure que 500 microns, en fait de quelques centaines de microns. Donc on a construit donc ce télescope à partir de 4 plans qui donnent donc la trajectoire d'un muon, donc 4 points X et Y, où chaque point est donné par un plan. Donc on a travaillé donc pendant ces 9 mois effectivement à sortir ces détecteurs de nos laboratoires, puisque c'est la première fois qu'ils étaient utilisés à l'extérieur, et avec aussi une production faite par un industriel, puisque jusqu'à présent ces détecteurs étaient fabriqués plutôt on va dire plutôt à la maison, c'est-à-dire plutôt par les organismes de recherche comme le CEA ou le CERN. Et pour la première fois, en fait, grâce à un transfert technologique sur lequel on travaillait, on a pu en fait faire fabriquer quelques-uns de ces détecteurs par cette société. Et donc, en juin de l'année 2015, hein, on a pris les premières données, hein, on a sorti le télescope pour la première fois, qu'on a installé dans une tente au pied du château d'eau, et on a commencé à voir apparaître les premiers muons. Et je me souviens, lorsque la première image est apparue, on était quand même assez excités de voir ça.
Oui, effectivement, donc comme David a dit, c'était au mois de juin. Alors en fait, le télescope, bon, on a appris beaucoup de choses, hein, il a tourné jusqu'en septembre typiquement. On l'a fait tourner y compris sur panneaux solaires, parce qu'en fait, on avait tout miniaturisé de sorte que la consommation soit minimale. Ça consommait à peu près 30 watts, hein, donc c'est l'équivalent d'une ampoule basse consommation. Et en fait, on a eu, enfin, il y a eu une coïncidence assez extraordinaire, c'est-à-dire que on a rapatrié le télescope en septembre 2015 au labo. Et en octobre de la même année, on a entendu dans la presse, hein, le lancement de la mission Scan Pyramids. Donc Scan Pyramids, c'est une collaboration internationale qui est coordonnée par deux personnes, qui sont le professeur Hilal de l'Université du Caire et Mehdi Tayoubi de l'Institut HIP, évidemment sous le contrôle du ministère des Antiquités égyptiennes. Donc on a appris ça le 25 octobre, je crois, la date de lancement de la mission. Et donc on a écrit immédiatement, on a envoyé un email à Mehdi Tayoubi en disant, bah voilà, nous on vient de faire l'image d'un château d'eau à Saclay, on a sorti le premier télescope à muon du CEA. Et à l'époque, en fait, dans la mission, donc, il y avait plusieurs volets. Il y avait de la photogrammétrie, il y avait de la modélisation 3D, et il y avait donc un volet muographie. Et ils avaient fait appel à deux équipes japonaises de l'université de Nagoya et du KEK. Et parce que les Japonais sont assez, enfin, spécialistes de cette technologie émergente. Et voilà, donc on leur a dit, bah, éventuellement, nous, on peut fournir un ou plusieurs télescopes dans la mission et éventuellement viser des zones complémentaires, sachant que les Japonais devaient s'installer à l'intérieur. Donc moi j'avais rencontré Mehdi Tayoubi en décembre à Paris, et puis on a fait une première mission de reconnaissance en janvier avec lui pour voir où est-ce qu'on pourrait s'installer, notamment à l'extérieur. Et voilà, donc on a fait appel à toute l'équipe. Alors il n'y a pas beaucoup de personnes, hein, on est 5 ou 6 dans l'équipe, mais chacun a sa propre compétence. Et on leur a dit, bah voilà, on a cette opportunité de participer à cette mission. Donc il faut faire 3 télescopes en quelques mois, parce qu'on avait du retard sur les Japonais. Il fallait essayer de rattraper un peu le retard. Et donc tout le monde a relevé le défi. David mentionnait aussi Elvia, hein, qui a fabriqué une partie des détecteurs. Et voilà, donc ça a été un moment assez, assez extraordinaire, hein, pour toute l'équipe, où il y avait une effervescence assez incroyable. Et vraiment, donc on travaillait un petit peu dans l'urgence, mais avec un but qui était extraordinaire, hein, d'aller déployer ces instruments sur le plateau de Gizeh, alors qu'on avait fait modestement que le château d'eau de Saclay. Donc David peut parler de comment ça s'est passé aussi, cette période assez, assez spéciale pour nous.
Alors effectivement, quand tu étais revenu d'Égypte, on était sur cette idée de construire 3 télescopes. Alors bon, contrairement au premier télescope qui était quand même un prototype, on s'était dit que celui-là, il fallait qu'il soit un peu plus transportable, puisqu'il fallait que déjà on l'envoie de la France vers l'Égypte, et en plus qu'on le déploie au pied des pyramides. Donc on est passé quand même d'un télescope qui faisait plus de 200 kg à un télescope qui faisait un peu plus de 100 kg. Ensuite, on est passé d'une nouvelle version de détecteur, c'est-à-dire sur lequel on avait travaillé pas mal sur le bruit, etc. Donc on avait quand même optimisé un peu les choses sur cette partie-là. En plus, ces détecteurs, donc il fallait 4 plans par télescope, donc 3 télescopes. Donc ça nous fait 12 détecteurs. Donc ces 12 détecteurs ont pu être fabriqués grâce justement à ce transfert technologique qu'on a poursuivi avec la société française Elvia PCB, qui grâce à elle, en fait, on a pu en produire plus des 2/3 des détecteurs. Et donc ensuite, l'idée de faire le transport de ces télescopes, c'est de dire, tiens, et si on les mettait dans des valises directement le transport, qu'on puisse simplement les transporter, puis avec un système mécanique de pieds, on puisse simplement les faire pointer vers la pyramide. Et l'idée, voilà, c'était de tout intégrer dans des valises, que ce soit à la fois la batterie, la bouteille de gaz, l'électronique, les détecteurs, etc. Donc ça, c'était vraiment un vrai challenge, surtout de le réaliser. Donc fin janvier, on avait à peu près la conception sur le papier, disons. Et puis, dans les 2-3 mois qui ont suivi, on a construit les télescopes pour les envoyer, effectivement. Je crois que c'était fin mars, début avril. Et donc, pour pouvoir après s'installer au courant juin en Égypte. Donc ça, c'était vraiment... je pense que c'est effectivement ce qui nous a un peu poussé, c'était cette opportunité vraiment de se dire... voilà, on est arrivé beaucoup plus tard que les Japonais sur le projet, mais c'est vrai qu'en quelques semaines, on a pu quand même... bon, je pense effectivement, grâce à une équipe technique et compétente et qui vraiment était motivée là-dessus, sortir 3 télescopes qui après ont pu prendre des données pendant quelques mois qui ont suivi le déploiement.
Oui, donc on a pris des données pendant... alors, en fait, il y a eu plusieurs campagnes de mesure. Hein. La première, on s'est installé au mois de juin 2016. On a tourné à peu près 3 mois. En fait, l'idée, c'était de dire que bon, les Japonais étaient déjà installés en fait, à l'intérieur de la pyramide. Ils sondaient vraiment le cœur de la pyramide, les zones internes. Et avec Mehdi Tayoubi et le professeur Elal, on s'est dit, bon, bah voilà, nous, on a des instruments qui, a priori, peuvent résister aux conditions extérieures, hein, c'est-à-dire ben, presque des conditions désertiques, avec énormément de vent, d'écart de température, de poussière, de sable, de tempête de sable. Et, mais bon, malgré tout, on a pris le pari de placer ces télescopes à l'extérieur pour sonder en fait, les zones périphériques de la pyramide, c'est-à-dire les arêtes globalement. Et notamment à la première mission, l'objectif c'était de démontrer le niveau de performance des instruments, puisque au niveau de l'arête nord-est, à peu près à 80 mètres de hauteur, se trouve une petite cavité au niveau d'une encoche. Et en fait, donc elle n'est pas visible depuis le sol, évidemment, elle fait à peu près 3 mètres sur 3, elle est cachée dans 20 mètres de roche. Et on s'est dit, bon ben voilà, si on veut démontrer qu'on peut effectivement faire des découvertes potentiellement dans cette pyramide, il faut déjà être en mesure de détecter des choses qui existent. Et donc on a braqué les 3 télescopes autour de l'arête nord-est en direction de cette petite cavité. Et on avait fait des simulations qui nous avaient dit qu'effectivement, en à peu près une centaine de jours, on était capable de voir cette cavité apparaître. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'effectivement, au bout d'à peu près 3 mois, on a vu la cavité apparaître de manière statistiquement significative. Hein. Donc il y a de l'analyse de données derrière pour analyser toute tous les muons qu'on collecte, à peu près 200 millions pour cette première mission. Et on a vu un petit excédent de quelques centaines de muons seulement, donc c'est vraiment une aiguille dans une botte de foin. Qui correspondait à cette cavité. Et on a eu la surprise en fait, de détecter une autre cavité, c'est-à-dire un autre excédent de muon, un petit peu plus haut, en fait, à peu près à 30 mètres de haut, toujours le long de l'arête nord-est, qui celle-là n'était pas référencée. D'ailleurs, on a eu la chance de monter sur la pyramide pour vérifier en fait, à cet endroit-là, avec un endoscope, s'il n'y avait pas moyen de voir cette cavité. Mais en fait, non, parce qu'il n'y a pas d'éboulement à cet endroit-là, donc cette cavité n'est pas accessible. Enfin bon, donc on a démontré son existence comme ça. Et puis, on a fait d'autres missions en fait, pour essayer de scanner d'autres arêtes. Donc, on a redéployé les télescopes. Ce qui, à chaque fois, alors bon, pour les auditeurs, c'est pas forcément très... Enfin, il faut s'imaginer, en fait, ces instruments qui sont quand même un peu de la haute technologie, qui sont pas faits du tout pour des conditions de terrain aussi hostiles. Et donc, les transporter, les mettre en fonctionnement... dans ces conditions-là, avec la chaleur qui va avec, etc. Donc c'était vraiment une aventure assez exceptionnelle auquel toute l'équipe a pu participer. Donc on a fait plusieurs missions comme ça, étalées sur 2016 et 2017. Et puis en 2017, ben, on a combiné en fait avec les Japonais, on a fait une nouvelle mission depuis la face nord, en redéployant les télescopes.
Alors, il faut préciser que, bon, à chaque mission, c'est juste une semaine. Hein, c'est-à-dire qu'on se déplace, on positionne le télescope. Quand il était à l'extérieur, c'était sur la face nord, la face est. Et puis quand on l'a redéplacé sur les autres faces. Mais ça, il faut compter une semaine typiquement pour faire ça, prendre les premières données. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que en fait, on a accès en fait au télescope en utilisant une clé 3G, hein, c'est-à-dire on est connecté au réseau des antennes donc GSM hein, qui sont sur le plateau. Et en fait, depuis notre bureau, hein, une fois qu'on rentre, on passe typiquement une à deux semaines au maximum par an là-bas, hein, juste pour l'installation. On rentre en France et puis dans notre bureau, et ben, on peut s'y connecter et donc regarder comment se passe l'acquisition de données, si on doit arrêter par exemple un run, rapatrier des données qu'on a, ce qu'on appelle post-processées, c'est-à-dire qu'on a pré-analysé de telle sorte à les réduire au moins d'un bon facteur 20, et pour commencer à regarder, pour voir si tout est consistant, etc. Donc l'idée, les gens, ils pensent qu'on passe toujours des mois et des mois là-bas. En fait, non. Hein. Typiquement, c'est une, deux semaines par an. Et le reste se fait grâce à une équipe aussi locale hein, de personnes. Si en cas de problème, par exemple, s'il faut redémarrer le télescope, qu'on n'y a plus accès, changer la clé USB ou des choses comme ça, on a eu quand même quelques petits soucis. Changer la tempe lorsqu'il y a une tempête de sable, c'est arrivé aussi quelques fois. Donc voilà, ce qu'il faut voir, c'est que une fois que les choses sont bien en place, en fait, on y a accès de l'extérieur et on peut le piloter, on va dire, bien tranquillement derrière son bureau. Voilà, donc ça c'était vraiment quelque chose de relativement important. Et je pense que bon, la suite en fait des missions donc de 2016 et 2017 ont montré que les Japonais qui étaient toujours à l'intérieur, hein, qui avec des détecteurs scintillateurs et des plaques photo, en fait, ils ont commencé à avoir une anomalie au-dessus de la Grande Galerie. Et c'est vrai que lorsqu'on a redéployé les télescopes pour scanner les autres arêtes, hein, parce que l'idée, vu qu'on avait regardé l'arête nord-est et sur lesquelles on a trouvé donc la chambre connue, hein, dont a parlé Sébastien, et la nouvelle chambre, l'idée, c'était de vérifier qu'on voit ou on ne voit pas en fait, d'autres chambres dans les autres arêtes, hein, parce qu'il y a un peu des théories sur la construction des pyramides qui cherchent justement des cavités au niveau des arêtes. Donc c'était un peu notre idée lorsqu'on a fait la deuxième mission. Donc ensuite, lorsque les Japonais ont sensiblement amélioré leurs données, effectivement, ça nous a ça nous a demandé de dire est-ce qu'il ne fallait pas qu'on redéploie nos télescopes plutôt vers la face nord pour regarder au-dessus de la Grande Galerie, en fait. Sébastien, peut-être qu'il peut en dire un peu plus là-dessus, sur ce qu'on a fait.
Oui, donc ça c'était début 2017, en fait. Il y a eu un moment où, avec une certaine effervescence dans l'équipe, dans toute la coloration, un scan pyramide, puisqu'effectivement, les Japonais, en particulier ceux de Nagoya, sont arrivés avec des résultats qui... assez surprenant, c'est-à-dire qu'ils avaient mis en évidence le fait qu'ils pouvaient voir la Grande Galerie depuis la chambre de la reine. Donc là aussi, ça permet de valider la technologie. Hein. On peut voir avec cette technique des vides qui sont connus. Et en fait, ils ont aussi vu un excédent assez significatif de muons. Donc ça veut dire a priori une sous-densité, voire un vide, situé au-dessus de la Grande Galerie. Donc évidemment, pour ceux qui connaissent un petit peu la Grande Pyramide, il n'y a rien de connu en fait, au-dessus de la Grande Galerie. Et donc il a été décidé d'organiser une mission avec les trois différentes équipes. Donc les deux équipes japonaises ont redéployé des instruments dans la chambre de la reine. Et nous, de l'extérieur, on a pointé nos télescopes depuis la face nord vers l'axe où en fait se trouvent toutes les grandes structures connues de la pyramide, hein, puisque toutes ces structures sont dans un axe nord-sud. Et donc chaque équipe a travaillé indépendamment pendant plusieurs mois. Et toutes les unes après les autres sont arrivées à la conclusion qu'effectivement, il y avait un vide significatif, hein, de plusieurs centaines de mètres cubes au-dessus de la Grande Galerie. Alors en fait, nous, ce qu'on a apporté dans l'histoire, c'est que les Japonais avaient des instruments qui forcément devaient fonctionner à l'intérieur. Et bon, il n'y a pas beaucoup de place à l'intérieur de la pyramide, ce qui fait que les angles d'observation sont assez limités. Donc ils avaient une triangulation en fait sur ce vide qui n'était pas forcément extrêmement précise. Et nous, en fait, de l'extérieur, on a réussi à amener un point de vue complètement différent, ce qui a permis de faire justement une triangulation beaucoup plus précise. Et puis, c'était en juillet 2017, hein, donc toutes les équipes se sont retrouvées à Paris et on a confronté les différents résultats. Il y avait des personnes aussi, notamment Benoît Marigny, qui travaillait sur la modélisation 3D. On a mis tous nos résultats ensemble et on s'est rendu compte qu'effectivement, chaque équipe voyait un excédent significatif dans une certaine direction et que mis bout à bout, c'est-à-dire avec la modélisation 3D, eh bien, toutes ces directions pointaient vers la même zone qui est à peu près située 15 à 20 mètres au-dessus de la Grande Galerie. Donc c'est vraiment un vide significatif qui fait plusieurs centaines de mètres cubes. Oui, je sais. Oui, j'ai perdu le fil.
Le vide au-dessus de la Grande
Galerie. Donc ça a vraiment été un moment assez... on avait tous l'impression de vivre un moment très très particulier dans nos vies de scientifiques, dans nos vies tout court. Hein, donc il y a eu une certaine euphorie à la suite de ça. Et donc on a soumis ces résultats au journal Nature, à la revue Nature. Et ces résultats sont sortis, ont été publiés au mois de... début novembre 2017.
Oui, alors bon, peut-être que c'est des choses qu'on peut le dire maintenant, mais à l'époque, c'est vrai qu'on a dû le faire relativement rapidement, cette publication, parce que pendant les deux années qui ont précédé donc cette publication, en fait, il y a un documentaire qui se préparait à être diffusé sur France 5, et dont la date était prévue justement... En fin d'année, hein, donc était prévu vers la fin novembre. Et donc l'idée, c'était de faire la publication avant la sortie du reportage qui allait parler en fait de cette découverte, parce que sinon ça aurait été un peu problématique d'avoir le reportage qui passait avant la sortie du papier. Donc c'est vrai que c'était des moments, assez difficile, parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir y arriver avant la diffusion du reportage, du film qui est passé sur France 5. Donc, mais c'est sûr que voilà, on était bien contents, une fois que le papier a été accepté et été publié, et d'avoir le reportage qui sortait après. Je pense que ça, c'était vraiment... je pense qu'une chose qui arrive qu'une fois dans une vie de scientifique, clairement.